15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être là en direct avec vous, depuis ma chambre encore pour quelques jours, pour une émission toujours en partie consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Pour m'aider dans cette tâche tous les jours, il est là lui aussi notre docteur européen, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, nous commencerons par donner la parole à un rhumatologue, le professeur Francis Berenbaum. Il était venu il y a quelques semaines nous livrer son inquiétude face à la disparition des patients malades chroniques dans les consultations pendant la crise. Alors sont-ils revenus? Leur état s'est-il dégradé? Il nous dira. Et puis, évidemment, le professeur Berenbaum, en grand connaisseur du monde hospitalier, nous livrera sa vision de la gestion de cette épidémie et des mesures qui seront indispensables, selon lui, pour redresser l'hôpital et surtout respecter davantage les soignants qui en sont les piliers. Ensuite, dans la deuxième partie de Sans Rendez-vous, vous le savez, on tente désormais d'aborder des sujets plus tournés vers le bien-être. Et justement, pour évoquer, là encore, l'avenir, le coach de vie et révélateur d'intelligence, comme il se présente, Christophe Bourgois, sera notre invité. Il nous aidera à voir ce que nous pourrons tirer chacun de cette épreuve collective pour mieux performer sur le plan personnel et professionnel. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue avec qui aujourd'hui il sera question de désir.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous accueillons par téléphone le professeur Francis Berenbaum. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. D'abord, comment ça se passe aujourd'hui dans votre service? Est-ce que vos patients qui avaient déserté vos consultations pour leurs maladies chroniques sont de retour? Vous étiez venu nous en parler il y a quelques semaines. Est-ce que depuis le déconfinement, ces patients-là sont réapparus?
Alors pour le moment, la consultation en visuel n'est pas encore rouverte. Cela devrait être le cas d'une semaine à l'autre là, parce que bien évidemment, il faut mettre en place toutes les mesures pour que le patient qui viendra demain en consultation, eh bien, n'aura absolument aucun risque vis-à-vis du coronavirus.
Donc ça s'organise aussi la reprise en fait,
voilà,
hein, c'est ça.
Ça s'organise,
hein,
la reprise, exactement. Maintenant, évidemment, les consultations en visioconsultation ou par téléphone maintenant sont bien mises en place. Alors voilà, ce qu'on observe, c'est que les patients, les douleurs, on les voit réapparaître. Moi, je parle évidemment pour la partie rhumatologique. Oui, en pleine crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais...
Si, vous aviez dit, ils disaient tous qu'ils allaient bien.
Voilà, j'avais dit qu'ils allaient tous bien. Eh bien, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et il faut dire, on pouvait s'y attendre, hein, parce qu'après la sidération liée à tous ces chiffres dramatiques que l'on entendait, maintenant, on voit réapparaître les douleurs, et en particulier chez des personnes qui ont de l'arthrose ou qui ont des problèmes de tendinite, qui avaient ces problèmes-là de façon chronique. Et en fin de compte, il fallait s'y attendre.
Oui.
Alors, je vais vous expliquer
une bonne nouvelle entre guillemets, dites-nous.
Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas que le traitement de ces problèmes articulaires, c'est l'activité physique. Et donc, évidemment, en période de confinement, l'activité physique a été bien moins importante, même si parfois certaines personnes ont pu continuer à en faire un peu chez eux. Mais du coup, le vrai traitement efficace, eh bien, ne pouvait plus être distribué. L'activité physique ne s'est pas faite.
Et le meilleur médicament, c'est le mouvement, absolument, comme on l'avait déjà dit dans une émission précédente avec vous.
Exactement. Et donc, voilà pourquoi on voit réapparaître ce problème.
Docteur,
de façon
Mohamed.
Importante, hein.
Professeur, est-ce que certains ont arrêté leur traitement? Vous nous avez alerté sur le risque, justement, que les patients arrêtent leurs médicaments du fait de cette alerte qu'on avait donnée sur les anti-inflammatoires dans ce contexte de coronavirus. Est-ce que vous avez observé ce genre de phénomène?
Oui, je l'ai observé. Mais bon, heureusement, les messages sont finalement bien passés et il y a eu une certaine mesure. C'est-à-dire que les patients ont souvent tenté de l'arrêter parce qu'ils ont quand même entendu le message et en fait ne l'ont repris que si effectivement les douleurs n'étaient plus contrôlées. Mais globalement, j'aurais tendance à dire que ça s'est plutôt bien passé pour les anti-inflammatoires. Pour la cortisone, j'ai eu quand même quelques patients qui ont arrêté brutalement leur traitement. Et ça, par contre, ça, c'est pas bien. Ouais. Parce que c'est dangereux d'arrêter la cortisone brutalement.
Brutalement, surtout, voilà. Bien sûr.
Voilà, c'est ça, c'est le fait d'arrêter brutalement.
Professeur Berenbaum, en rhumatologie, on sait qu'il y a plusieurs médicaments que vous, enfin que vos patients ils prennent, hein, que ceux qui ont du lupus, de la polyarthrite, des médicaments surtout, je veux dire, qui sont testés aujourd'hui dans éventuellement contre le coronavirus. Je pense à la chloroquine, je pense au tocilizumab. Ils sont testés tous les deux contre la Covid-19. Est-ce que vous avez la sensation que vos patients ont été plutôt protégés de ce fait-là ou pas?
Alors franchement, d'abord au niveau personnel, pour ce genre d'évaluation, on ne peut pas l'évaluer au niveau d'un docteur dans son coin. On ne peut l'évaluer que lorsque l'on regarde les différentes études qui ont été réalisées. J'aurais tendance à dire malheureusement, tous les essais avec chloroquine, hydroxychloroquine, tous ont montré l'absence d'efficacité clinique. Ont montré l'absence d'efficacité clinique malgré tout ce qu'on a pu entendre. Et je peux comprendre, quand on a l'espoir, eh bien évidemment, on essaie de voir les aspects positifs. Malheureusement, quand on regarde la balance entre les bénéfices et les risques de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, eh bien aujourd'hui, la balance est clairement en défaveur de la prescription de ce traitement. Alors évidemment, quand j'entends le président des États-Unis redire que la chloroquine...
J'allais vous demander votre avis sur cette trumpisation de la science, là, qui est assez dingue quand même.
Exactement, c'est quand même assez incroyable de voir comment... cette crise a mis en évidence des lacunes dans la communication de la science, et en particulier.
Justement, docteur Dimi Mohamed a une question pour vous dans ce sens, je crois.
Oui, professeur, j'ai le sentiment qu'il y a les pro-Raoult comme Donald Trump, sans forcément avoir de fondement sur la science. Et puis il y a non pas les anti-Raoult, mais en tout cas ceux qui sont du côté de la recherche, de la médecine fondée sur les preuves, et surtout le fait de ne pas nuire aux patients. Est-ce que vous pensez que malgré avec tous ces débats un peu précipités, un peu chaotiques, on a incité certains praticiens à négliger justement ce principe fondamental de la médecine, de ne pas nuire d'abord aux patients?
Bah oui, malheureusement, quand vous avez des grandes personnalités, je parle de grandes personnalités, Didier Raoult, c'est un très grand spécialiste en maladies infectieuses, qui dirige un très grand centre, et qui malheureusement part dans des considération absolument non scientifique, eh bien, voilà à quoi ça aboutit. On peut pas jeter la pierre aux personnes qui suivent, parce que évidemment, quand on entend un grand scientifique, on a plutôt envie de le suivre. Malheureusement.
Parce qu'il y a beaucoup de grands scientifiques qui parlent et les personnes disent la même chose. Donc, pour les patients, c'est un peu compliqué de suivre.
Exactement. Hein. Et tout le monde est perdant au final. Tout le monde est perdant. Vous avez après des relais par des hommes politiques qui vont également ajouter encore de la confusion au débat. Et finalement, on n'écoute pas et on ne suit pas la seule chose qui devrait être suivie, c'est-à-dire les études scientifiques bien faites qui permettent de voir si un médicament a plus de bénéfices que de risques.
Bon, en tout cas, on n'écoutera pas les prescriptions du docteur Trump, hein, ça on l'a compris. Merci professeur Berenbaum. On n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, votre émission Santé revient. Juste après, avec le professeur Berenbaum, nous allons évoquer l'hôpital de demain. Le ministre de la Santé promet un nouveau plan de réforme, le Ségur de la Santé. Alors, quelles sont les conditions qui dont on a absolument besoin? Dans quelques minutes, on va parler avec lui justement de tout ça. C'est juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission Santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Francis Berenbaum. Je rappelle que vous êtes chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. À présent, professeur, on va parler peut-être un peu de l'hôpital de demain. Beaucoup de Français ont la sensation que le système hospitalier chez nous a été un peu pris de court, hein, en tout cas peut-être plus que dans d'autres pays comme l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que c'est parce que finalement on a déjà démarré cette crise sur un hôpital qui était en cendres peut-être ?
Je crois que quand même, ce qu'il faut déjà dire, c'est que effectivement le système de santé pendant cette crise a été tendu, mais il a tenu. Et quand même, je pense que c'est un point fondamental. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier très très chaleureusement tous les citoyens qui tous les soirs à 20h applaudissaient. Évidemment, ça peut donner le sentiment que c'est pas grand-chose, mais pour autant, ça montrait quand même un très fort soutien de la population. Le système, il a tenu, mais pourquoi il a tenu ? Il a tenu par la bonne volonté de l'ensemble des professionnels de santé de nos hôpitaux publics. Et donc, quand on se donne un objectif, qui est le soin, eh bien ça marche. C'est une démonstration que l'hôpital public, lorsqu'il n'est plus considéré comme une entreprise, mais quand il est considéré comme ayant un objectif de santé publique qui s'appelle le soin, eh bien ça marche, ça tient et ça s'organise. Et la raison pour laquelle ça a tenu, alors que pour autant, depuis un an, depuis même plus d'un an, on n'arrête pas d'expliquer qu'on va dans le mur. Et quand il y a une crise comme celle-ci et que finalement on change complètement la façon de voir le fonctionnement d'un hôpital, eh bien dans ces cas-là, ça marche. On a laissé les mains libres aux professionnels de santé et je dirais même aux administratifs de s'organiser avec un objectif, le soin. Eh bien, dans ces cas-là, ça marche. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller... On a fait la démonstration dans les hôpitaux publics en France qu'avec cet objectif-là, on peut tourner.
Docteur
voilà
Jimmy Mohamed.
Professeur, on découvre le courage et la bienveillance et l'abnégation du personnel hospitalier avec le Covid, comme si ça n'existait pas auparavant. Et d'ailleurs, le président semble avoir peut-être compris la mesure de l'effort. Il a reçu des médecins et Olivier Véran parle d'un Ségur de la santé. Il l'a annoncé, encore un plan de réforme, encore une concertation. Franchement, on n'en a pas déjà fait beaucoup. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que vous portez des espoirs dessus ?
Alors, la raison pour laquelle je porte un espoir dessus, c'est la suivante. C'est que je pense que l'ensemble de la population va suivre. Je pense qu'on est arrivé à une extrémité qui est telle que l'ensemble des Français a compris que là, ça ne pouvait plus durer et donc il fallait absolument réformer en profondeur le système de santé. Et donc c'est parce qu'il y aura l'appui de la population que ça marchera. Mais par contre, s'il n'y a pas cet appui, et donc je fais un appel là aujourd'hui, je fais un appel à tous vos auditeurs.
Les gens applaudissent, donc je pense qu'ils appuieront.
Oui, voilà, vous avez applaudi à 20h à vos fenêtres, et c'est maintenant qu'il va falloir agir pour que vos applaudissements se transforment, parce que maintenant, vous allez transformer l'hôpital public. Donc c'est maintenant.
Et professeur Berenbaum, on le sait aujourd'hui, ça passera forcément par une revalorisation des salaires. D'ailleurs, Olivier Véran s'y est engagé. C'est obligatoire, je veux dire, ça c'est la condition première peut-être même.
Bon, évidemment, un hôpital ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de personnel. Donc, comme on explique depuis un an que le personnel part de l'hôpital et fuit l'hôpital, je rappelle quand même que l'hôpital a tenu, mais ça a quand même été au prix de services qui ont dû se transformer uniquement pour recevoir des patients Covid parce qu'on ne pouvait plus recevoir les patients ayant des pathologies chroniques ou non Covid. Donc, il faut quand même bien, effectivement, appuyer sur le fait que si on veut attirer les infirmières, les aides-soignants, les manipulateurs radio, les kinésithérapeutes et autres professionnels de santé à l'hôpital, eh bien, il n'y a pas 36 façons de faire, il y a la revalorisation des salaires. Donc ça, c'était une des mesures principales que, au niveau du collectif Hôpital Public CIH, eh bien, on insistait depuis le début, c'est évidemment cette revalorisation. Mais pour l'attractivité, d'accord ? Mais évidemment, il n'y a pas que ça. L'attractivité, c'est fondamental. Les salaires, la qualité de vie au travail, évidemment, tout ça, c'est absolument fondamental, mais ça ne suffit pas non plus.
Docteur Dimitri-Mohamed.
Justement, en parlant de gouvernance, professeur, pendant cette période de Covid, de ce que mes confrères me disaient, c'est que les médecins faisaient de la médecine et ne se préoccupaient pas de cette lourdeur administrative qui empoisonne le quotidien. Est-ce que, justement, c'est ce qui pèse dans votre travail tous les jours ? C'est ce qui fait obstacle à faire votre métier de médecin ?
Non, ce qui fait, c'est pas vraiment ça qui fait obstacle au métier de médecin. Si on nous dit que les décisions seront réellement partagées entre les professionnels de santé, les usagers et les directions administratives, dans ces cas-là, je pense que tout le monde mettra la main à la pâte et puis iront dans le sens des soins pour faire tourner l'hôpital de façon correcte. Donc je pense que là où effectivement ça posait problème, c'est quand on éventuellement demandait l'avis aux professionnels de santé ou aux médecins. Oui. Mais qu'au final, les décisions étaient purement financières sur des tableurs Excel et puis point barre. Quoi. Donc là, ça
professeur,
va pas.
Professeur Berenbaum, vous craignez pas toutefois que toutes les difficultés de l'hôpital qu'on a pu voir encore mieux, on va dire, ces derniers mois, engendrent vraiment une disparition des vocations? Parce que franchement, honnêtement, pour un étudiant en médecine qui a été payé, j'ai pu lire parfois 1,29€ de l'heure pendant cette crise, franchement, la vocation, il faut qu'elle s'accroche quand même, ça a dû en dégoûter plus d'un, non?
Ça c'est sûr que s'il n'y a pas un choc absolument violent, hyper important, qui se fait à la suite de cette crise-là, si on n'assiste pas à ce choc de réforme pour l'hôpital public, là vraiment, c'est fini. Hein. Je pense que l'hôpital public, on pourra tirer un trait dessus et effectivement, des vocations, ça sera vraiment compliqué pour en trouver. Mais moi, je suis un optimiste. Je pense encore une fois qu'avec l'appui de l'ensemble de la population, on doit pouvoir y arriver. Je pense qu'il y a une volonté de tous. Donc maintenant, allons-y. Et puis, on aura un hôpital que je dirais même pas hôpital public, je dirais un hôpital santé publique, avec également des objectifs de prévention. Enfin voilà, on a vraiment des idées pour faire évoluer. C'est tout à fait possible. Arrêtons l'hôpital entreprise, arrêtons la tarification à l'activité, orientons-nous vraiment vers le soin et puis là, ça marchera. Et avec intégré dans l'ensemble du système de soins. Hein,
merci beaucoup professeur Berenbaum d'avoir été avec nous pour cet entretien. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre encore à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous laissez sur le répondeur d'Europe 1. On y vient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, justement, Jimmy et moi, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous avez laissées, notamment sur le 3921, notre répondeur, 50 centimes d'euros la minute. Et on va commencer par la question de Françoise. On l'écoute.
Bonjour, c'est Françoise de Seine-et-Marne. J'aurais voulu avoir un renseignement au sujet de ma petite fille qui va avoir un bébé au mois de fin juin. Déjà, je suis angoissée vu son état et ce qui se passe en ce moment. Et j'aurais voulu savoir à quel moment, après son accouchement, on pourra aller voir le bébé, s'il vous plaît. Je vous remercie et je vous aime tous les deux. Au revoir.
Oh, c'est gentil, Françoise, on vous aime aussi. Alors Jimmy, justement, va prendre bien soin de vous répondre le plus précisément possible. Alors quand est-ce qu'elle va pouvoir aller voir ce petit bébé, Françoise?
Alors en ce qui concerne les visites à la maternité pendant l'accouchement, malheureusement ce n'est toujours pas possible. Et en ce qui concerne le retour à la maison, je pense qu'il faut être prudent mais non pas paranoïaque. Alors Françoise, si elle est grand-mère, peut-être qu'elle est à la retraite et donc elle ne travaille plus et donc elle n'est plus en contact avec du personnel ou des personnes qui pourraient la rendre malade. Elle a peut-être été aussi confinée correctement, ce qui veut donc dire c'est qu'elle ne serait pas porteur du virus et donc ça me semble envisageable puisqu'il faut quand même renouer le lien familial, c'est un événement d'avoir un petit enfant et puis il faut aussi aider aussi les parents qui parfois sont un peu débordés, donc je pense que ça peut s'organiser peut-être avec quand même un peu de distance, éviter de porter le bébé tout de suite, au moins mettre un masque à la maison et puis qui sait, pour l'instant c'est absolument pas recommandé mais peut-être d'ici quelques temps on pourra faire des tests à des gens asymptomatiques puisque une personne sur deux est porteur du Covid, enfin celles qui sont porteurs du Covid n'ont pas de symptômes, peut-être que votre médecin à un moment pourra vous donner une ordonnance pour être sûr que vous n'allez pas contaminer des personnes, même si pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Donc oui, mais avec des précautions, le lavage des mains, le masque, et puis oui, pendant quelques temps, si vous n'êtes pas malade, ça me semble envisageable.
Bon, bah très bien, elle pourra avoir ce petit bébé bientôt. Merci beaucoup, Jimmy. On va prendre une autre question, c'est celle de Léon, dans l'Hérault, qui nous demande si les autotests, Jimmy, qu'on peut faire tout seul chez soi, sont efficaces, et si c'est si important que ça, finalement, de savoir qu'on a déjà eu le Covid, puisqu'on n'est pas certain d'être immunisé. À votre avis, Jimmy?
Alors, moi, je suis un peu partagé. Effectivement, le gouvernement dit qu'il ne faut pas le faire, parce que ces autotests, pour l'instant, ne sont pas certifiés. On ne sait absolument pas si le test que vous allez faire va être finalement fiable ou correct. Mais si, à
partir
du moment où ils vont être certifiés.
La Haute Autorité de Santé a dit, OK, pour tous les autres, tests sérologiques, les tests rapides ou les tests faits en laboratoire avec la prise de sang, mais les autotests, pour l'instant, ils n'y sont pas favorables. La Haute Autorité de Santé, on rappelle l'instance qui guide finalement les bonnes pratiques médicales. Hein.
Exactement, mais derrière ces autotests, il y a ces sérologies, ces tests rapides. Moi, je pense que c'est un intérêt de savoir si on l'a eu, même si on pense que c'est peut-être pas immunisant, peut-être que malgré tout, c'est un peu immunisant, puisque parfois, des gens vont peut-être faire des formes asymptomatiques. S'ils sont positifs, étant donné qu'on ne connaît pas les conséquences du virus, je pense que toutes les personnes qui auront une sérologie positive devront aller voir leur médecin pour un suivi, une auscultation pulmonaire, au moindre doute, des épreuves respiratoires pour vérifier qu'il n'y a pas de séquelles au niveau des poumons. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas faire ce genre de test. Peut-être que dans 6 mois, la donne sera un peu différente. Donc voilà, n'investissez pas dans des tests que vous allez acheter en Chine. Ils pourront être défectueux et surtout mal vous guider. Je pense que vous avez besoin d'un médecin quand même pour interpréter les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Très bien. Alors on va prendre une autre question, Jimmy, qu'on a reçue celle-ci donc au 39-21. C'est la question de Sabrina. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle car j'ai eu une grosse toux pendant les mois de janvier et février. 2 mois durant, donc malgré plusieurs traitements antibiotiques, antitussifs, antihistaminiques, rien n'y a fait. J'ai eu droit à des antibiotiques, c'est parti au bout de 2 mois donc. Je voulais savoir si post-épidémie, je peux me faire tester.
Alors, est-ce qu'elle peut se faire tester? C'est vrai que janvier-février, normalement, ce n'était pas encore le top départ officiel de l'épidémie. Mais je crois que dans votre patientèle, vous avez des cas un peu suspects comme ça, hein, qui datent d'avant le top départ. Hein,
ouais. Exactement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre la grippe et le Covid dans cette période de l'année. Donc, se faire tester, peut-être que ce sera envisageable, mais dans un second temps. Là, ce qui est prévu, c'est que les soignants, tous ceux qui travaillent à l'hôpital ou en ville, qui ont été malades ou qui voudraient se faire tester, puissent faire des sérologies. Et en ce qui concerne le grand public, peut-être que ça arrivera. Certains labos le font. C'est pas remboursé, c'est pas certifié. Donc on ne sait absolument pas si on peut interpréter les résultats, mais je pense que ça aura l'intérêt pour elle de le savoir à titre rétrospectif, même si encore une fois j'ai certains patients qui ont eu ces symptômes comme ça en janvier-février et finalement leur sérologie est revenue négative. Alors peut-être que le test n'était pas super bon, mais peut-être qu'ils avaient la grippe ou n'importe quel virus respiratoire en cette période de l'année. On a beaucoup d'infections, donc s'il n'y avait pas que le Covid était sporadique, on avait quelques cas. L'épidémie a vraiment débuté plutôt fin février, plutôt voire même mi-mars.
Ouais, d'accord. Jimmy, on va prendre une autre question rapide, hein, c'est celle de Stéphanie qui nous a écrit de Belgique. Alors ça veut dire qu'on a quand même des auditeurs au-delà des frontières, c'est chouette. Elle nous demande, Stéphanie, si c'est vraiment sans risque de retourner chez le coiffeur. Alors je ne sais pas si vous êtes expert capillaire, mais dites-nous, en tout cas en termes de risque sanitaire, on va dire.
Alors, tout lieu clos, là où la distanciation physique et le port du masque n'est pas possible, est un endroit à risque. Maintenant, les coiffeurs ont aménagé malgré tout leur salon, il y a des distances, on prend des rendez-vous, ils portent des masques, ils se lavent les mains, donc à partir de ce moment-là, le risque est plutôt modéré. Alors, on peut poser la même question quand on va faire nos courses, quand on ira dans les transports, donc il y a un risque, mais à partir du moment où on se protège, on le limite. Donc je pense qu'on peut retourner sereinement chez nos coiffeurs adorés qui nous font du bien, on va pas se mentir.
Très bien, bon, vous utilisez votre tondeuse tout seul, on le sait, mais c'est pas grave pour les autres. Ça compte beaucoup, le coiffeur. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Pour cela, notre invité, ce sera Christophe Bourgois. Il se présente comme un révélateur d'intelligence. Il va nous aider à être plus performants à l'avenir, à se servir de ce qu'on vient de traverser peut-être pour tout déchirer dans les mois qui viennent. Mais avant ça, place à la musique sur Europe 1 avec le nouveau single de la chanteuse Selassou. Ça s'appelle « You ». C'était donc la chanteuse Selassou avec le single qui signe son grand retour. Le titre de ce nouveau morceau, c'était tout simplement You.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. À présent, nous accueillons en ligne Christophe Bourgois. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Christophe, vous vous présentez donc en tant que révélateur d'intelligence. Alors nous, ça nous intrigue, enfin surtout Jimmy, non pas qu'il en ait besoin, mais je suis sûre qu'il se demande ce que ça veut dire précisément. Expliquez-nous.
En fait, alors d'abord, c'est parce que il y en a marre de dire que je suis coach ou qu'il y a des, parce que c'est un terme qui est tellement galvaudé et qui veut rien dire, qui a été mis à toutes les sauces, que c'est important de bien préciser ce qu'est ce métier. Et surtout, c'est que nous venons toutes et tous au monde avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Et que la plupart du temps, on l'ignore, malheureusement. Et que mon rôle, au travers d'Intelligence Factory, c'est de reconnecter les gens à ces intelligences-là parce que ça change la vie.
C'est clair, ça Jimmy, vous voyez, vous allez changer de vie, là, je sens, en quelques minutes, vous allez voir, à vous Jimmy.
Parce qu'on va d'abord faire un petit bilan des semaines passées, les Français ont massivement télétravaillé, en tout cas ceux qui ont pu, et ça leur a permis pour beaucoup de reprendre un peu le contrôle, de se rendre compte qu'on est parfois même un peu plus productif quand on n'a pas le petit patron qui est dans le coin pour nous crier dessus.
C'est exactement ça, vous avez tout résumé. En fait, je crois qu'on est en train de vivre une forme de mai 68, mais en douceur, par rapport à l'autorité. De tout temps, on est obligé de s'émanciper, si vous voulez. On est obligé de s'émanciper du regard des parents, du regard des professeurs. Donc on prend notre job, on se dit « ça y est, je suis sorti du giron et tout va bien ». Et en fait, très souvent, on se remet face à une forme d'autorité qui rappelle d'ailleurs étrangement celle des parents. En tout cas, je le vois beaucoup en coaching. Et par rapport à cette autorité, si vous voulez, bah, vous avez des gens qui l'exercent très très bien avec un grand degré de confiance. Et d'autres qui savent pas l'exercer, parce qu'effectivement, vous avez employé le terme de petit chez Fayon, c'est surtout qu'ils ont des problèmes, si vous voulez, un peu existentiels de justification de leur métier, ou en tout cas, eux-mêmes, ils ont manque de confiance en eux. C'est pour ça qu'ils la projettent sur les autres. Hein, tout est une question de projection. Et le télétravail a été pour ça formidable. Hein, c'est que ça donnait des degrés de liberté et de confiance aux gens. Et tous les gens, tous les patrons, tous les collaborateurs qui ont réussi à travailler dans ce cadre de confiance, on réussit. Il y a même eu l'apparition de nouveaux managers, si j'ai envie de dire, des gens qui ont pris des responsabilités. Alors, je ne vous dis pas que c'est la panacée, parce que oui, faut toujours le lien, le contact. Ouais. Mais ce degré de confiance-là, effectivement, la distanciation physique, le télétravail l'a permis pour le plus grand bonheur de, en tout cas, 50% de Français qui veulent le continuer, si j'en crois les derniers sondages.
Christophe Bourgois, vous êtes donc révélateur d'intelligence. Et justement, si on parle d'intelligence, cette période, elle a été quand même le moment aussi de découvrir qu'on a d'autres intelligences en nous. Moi, j'ai découvert que j'étais douée pour le jardinage. Vous voyez, je ne m'en rappelais même pas. Je faisais ça enfant et puis j'avais oublié. C'est ça aussi, cette période-là nous a permis de nous recentrer pour découvrir de nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qui ont émergé.
C'est exactement ça, Mélanie. Le principe de l'intelligence multiple, si vous voulez, c'est que donc vous êtes capable de faire dès la naissance plusieurs choses, mais l'école, la pression parentale, vous amène vers une forme de monoculture et vous faites la même chose et vous oubliez tout le reste. Donc ce que vous avez réussi à faire, c'est l'intelligence naturaliste, effectivement. Se connecter à tout ce qui nous environne. Et vous n'êtes pas la seule, parce que j'ai regardé les études, des applications, par exemple, du Muséum d'Histoire Naturelle ont exposé, notamment sur la connaissance des oiseaux. Mais effectivement, à chaque fois, il faut un moteur. J'adore ce terme, qui n'est pas de moi d'ailleurs, de la vertu des contraintes. On a eu une contrainte, et ça a permis à beaucoup d'entre nous de se réinventer comme vous l'avez fait. Et effectivement, pour se réinventer, on avait l'intelligence naturaliste, on avait l'intelligence spatiale, parce qu'il fallait non seulement équiper son appartement ou son studio de telle manière à pouvoir gérer et le travail et la partie privée, mais c'est en même temps l'intelligence de la cuisine. On avait aussi l'intelligence relationnelle. Comment est-ce qu'on était, pour ceux qui n'étaient pas seuls, déjà au sein de notre propre famille, et puis avec les voisins, avec les secouristes, etc. On avait l'intelligence du temps. Essayer de comprendre la différence entre le temps perçu et le temps vécu, peut-être, pour beaucoup d'entre nous, l'intelligence de la littérature. Vous savez, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai essayé de comprendre dans les grands mouvements comme ça, qu'il y avait eu, comment les gens s'étaient réinsérés. Eh bien, si on prend Apollo 11, après donc 9 jours de stress, pour avoir posé le pied sur la Lune, ils ont passé 40 jours dans un petit caisson, une espèce de caravane, et ils se sont réinventés en marchant, donc l'intelligence du corps, kinesthésique, et en écrivant. Donc tout est en nous, il suffit d'en prendre conscience et d'aller chercher ça. C'est ça le
heureusement,
job, en fait.
Nous on n'a pas été dans un petit caisson, c'était quand même moins pire, mais docteur Jimmy Mohamed.
Malgré tout, beaucoup de femmes ont morflé à cause de la charge mentale qui a été accentuée durant le confinement. Qu'est-ce que vous leur dites pour les aider à ces femmes qui vous consultent, par exemple?
Écoutez, déjà, encore une fois... Alors, c'est anormal que nous soyons encore dans une société où les femmes doivent tout faire. Et effectivement, celles qui ont tout fait, d'une certaine manière, alors j'ai peut-être heurté certains de vos auditeurs, mais c'est d'une certaine manière, elles l'ont cherché, pas consciemment. C'est-à-dire, pour qu'il y ait quelqu'un qui manipule, il faut que de l'autre côté, qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'être manipulé. Donc, c'est toujours des torts à 50-50. Les torts à 80-20, ça n'existe pas. Donc, ce que j'ai envie de dire à ces femmes, c'est de dire, essayons de comprendre pourquoi vous avez envie de dépendre, pourquoi une part de vous accepte d'être sous le joug de ces contraintes-là. Et probablement, c'est lié à l'enfance, c'est lié à des traumas, et ces traumas, il faut juste les regarder en face, les accueillir, et c'est comme ça qu'ils partiront.
Christophe Bourgois, écoutez, on a envie de vous écouter des heures, ça tombe bien, on ne va pas vous lâcher tout de suite, on se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer cet entretien passionnant et parler de l'avenir, de comment mettre à profit ces intelligences un peu différentes qui ont émergé de nous durant l'épidémie. On parle de votre santé, de votre bien-être dans cette émission. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed et il est toujours en ligne avec nous. Christophe Bourgois, vous êtes révélateur d'intelligence et je vous avoue qu'on le commence à le comprendre effectivement ce que ça veut dire. Christophe, on va parler de l'avenir à présent. Selon vous, ceux qui vont mieux s'en sortir de cette situation, ce sont ceux qui ont su finalement se réadapter durant le confinement, un peu comme les prisonniers. Expliquez-nous.
En fait, si vous voulez, moi, en ce moment, c'est maintenant que j'ai plein d'appels de gens qui vont pas bien. Et en Chine, par exemple, sur 50 000 cas étudiés, il a fallu à peu près 3 à 4 semaines pour observer qu'il y avait à peu près 30% de la population qui subissait une espèce de stress post-traumatique, assez proche du syndrome de Stockholm, je pense. Et je vais essayer de comprendre pourquoi, en fait, ça a mis autant de temps. Et j'ai regardé des études aussi sur... que font les prisonniers et comment est-ce qu'on se réinsère dans la vie? On a été prisonniers, on avait des matons, entre guillemets, les flics et tout ce qui était la police, la gendarmerie, tout ce qui était autour de nous, et on était avec des co-détenus, notre famille ou souvent seuls, d'accord? Et donc j'ai fait ce parallèle-là, et chaque fois qu'un prisonnier se réinsère dans la vie professionnelle, il s'est réinventé pendant qu'il était en prison. Donc en fait, ceux qui se sont réinventés comme vous en s'ouvrant vers la nature, donc il faut surtout pas perdre ces ouvertures-là, ces prises de conscience-là, parce qu'encore une fois, il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes, en France, que le succès, c'est pas la monoculture. Le succès dépend de plein d'intelligences. Et que votre intelligence de la nature, la Mélanie, elle va vous servir. Alors ok, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas en monnaie sonnée trébuchante, quoique.
Si, si, j'attends les légumes bientôt, hein, donc je vais en avoir, je vais avoir de fruits de ma récolte, de mes semences.
Ceux qui se sont réinventés pendant ont plus de chance. Maintenant, il n'est jamais trop tard. Heureusement, on arrive dans une période hyper favorable, qui est le printemps, qui est l'été. Les jours sont beaux, la nature est là, on peut la réécouter. Donc, il y a quand même beaucoup de choses positives. Mmh. Et puis, écoutez, quand même, c'est formidable, quoi. Le peuple français est un peuple génial. Enfin, on peut avoir confiance dans les gens, quand même. Enfin, tout le monde disait, ouais, tout le monde dit qu'on est dégueulasse. Vous savez, cette propension bien française de mettre des gens dans des cases. Ouais. Mais en fait, on a toutes et tous respecté le confinement. Magnifiquement, quoi. Donc, ouais. Je pense que la sortie de confinement, qui doit être progressive, sera aussi respectée en réinventant certains gestes, justement, d'accueil, d'échange, comme le regard, etc.
Jimmy Mohamed.
Est-ce que vous pensez que ce confinement sera celui aussi de la quête du sens ? Beaucoup se sont rendus compte que les métiers qui ont continué de travailler, ceux qui étaient en première ligne, ceux que parfois on dénigrait comme les caissières, les livreurs, et bien finalement sans eux le pays ne pouvait pas tenir, alors que d'autres finalement on a pu s'en passer, ils ont pu faire du télétravail ou ne pas travailler. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des reconversions, des gens qui vont reprendre des études pour devenir, je ne sais pas, infirmier ou autre ?
Alors déjà, ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de petites mains. Il y a que des gens importants dans une société. Ça, c'est quand même ce que la pandémie a ramené de formidable. Après, il y a effectivement des gens qui ont été choqués, bouleversés sur le sens à donner à leur vie. L'intelligence existentielle était vraiment là. Parce que tous les jours, on nous comptait les morts, mais je suis assez proche de ce que dit Comte Sponville quand il dit, mais attendez, la vie, c'est bien sûr qu'il y a la mort dans la vie, on en prend conscience, mais il y a plein d'autres choses pour se réinventer. Il y a la culture, il y a l'amour, il y a toutes ces intelligences dont je vous parle. Donc, s'il y a le choix de changer de vie, il faut prendre le temps avant de faire ce choix. Voilà. Oui. Il ne faut pas se le décider du jour au lendemain. Il faut se souvenir de ce qu'on a fait de bien pendant ce confinement, engrammer ces choses-là. Waouh, je me suis ouvert à ça, comme le dit Mélanie. Je me m'intéresse à la nature. Est-ce que je pourrais faire quelque chose là-dedans? Est-ce que ça va me rappeler un driver de l'enfance? Est-ce que, enfant, j'étais heureuse à me connecter à la nature, etc., etc. Donc, il va falloir y aller progressivement, mais probablement, oui, il y a des nouvelles professions, et vous avez totalement raison, docteur, qui vont prendre toute leur place. J'espère que le gouvernement va les revaloriser. Parce que quand je vois les chiffres là, je crois que nos infirmières, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais sont à 1200 euros ou 1300 sur le plus faible salaire en Europe. Effectivement, j'espère qu'il va y avoir des incitations.
Jimmy ?
Certains pensent déjà à d'autres changements de vie plus géographiques, déménager par exemple à la campagne et quitter la ville. On s'est rendu compte que le confinement était très difficile pour certains. Est-ce que vous pensez que ça aussi va avoir un impact où on va être moins urbain qu'auparavant ?
Moi, je dirais aux gens déjà de pas changer, premièrement. Deuxièmement, en fait, il y a une étude qui vient de sortir dans un labo de cognition à Clermont-Ferrand qui dit que paradoxalement, les gens ont envie de se resserrer face au danger. Voilà, c'est un réflexe presque reptilien, si vous voulez. Donc, je pense que, si on regarde mai 68, il y en a quelques-uns qui sont partis dans le Larzac et à Goa, ou même au départ nombreux, mais beaucoup sont revenus. Je pense que la vie sera pas pareille qu'avant, mais encore une fois, elle va pas être à 180 degrés par rapport à celle d'avant, qu'il va falloir s'adapter, mais toujours en douceur. Donc je prendrai pas, moi, de décision irrévocable maintenant. J'attendrai déjà la fin du confinement, j'attendrai que soit passé pas mal de choses, que le tamis, que ce soit un peu déposé.
Pas de décision précipitée, quoi, en tout cas. Il faut le réfléchir et le mûrir. Vous dites aussi, je crois, que certains d'entre nous ont réalisé qu'il faut accepter finalement la mort, que cette crise, elle aura contribué à ça. Alors, d'un point de vue philosophique, ça veut dire quoi exactement ?
Écoutez, c'est quand même formidable. On vit une génération, enfin, je suis plus âgé que vous, parce que j'ai 60 ans dans un mois, qui a quand même été à l'abri de pas. On est plein d'adaptations possibles, et la mort est là. Sauf que la mort, on ne veut pas la voir. On la fuit au jour le jour. Et on la fuit tellement qu'on ne s'occupe jamais du ici et du maintenant. La vraie philosophie de vie, et c'est de se dire, waouh, qu'est-ce que je suis bien là à vous parler ici et maintenant avec Jimmy. Demain ou tout à l'heure, c'est de l'espérance. Donc déjà, de vivre le moment présent, de se dire, mais c'est incroyable que je sois là à parler au téléphone avec des gens comme vous, après les guerres, les non-dits, les enfants cachés, la peste, le choléra, toutes ces milliers d'années d'évolution, waouh, quel bonheur d'être là, de voir le soleil, de sentir les plantes. Voilà, pour moi, la grande
la grande leçon de cette pandémie, c'est mais que la vie est belle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité incroyable pour se réinventer dans cette vie ? Sortir de cette monoculture, sortir du tout data, sortir du tout application. Et effectivement, on a besoin de liens. On a besoin de se palper, de se voir. On ne peut pas se palper pour l'instant, mais au moins de se voir, on peut très très bien communiquer par le regard. C'est le plus bel outil pour communiquer. On a besoin de ces sens, effectivement. Et on trouvera des solutions, je n'en doute pas, au niveau du corps, en faisant des exercices de visualisation, en faisant tout un tas de choses, pour se connecter à tout ce ressenti. Le ressenti est dans le corps.
Merci beaucoup Christophe Bourgois d'avoir été notre invité, ça a été vraiment passionnant. On vous réinvitera je pense, parce qu'il y a encore d'autres intelligences qu'on a besoin de développer avec vous. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique, c'est Étienne Dao, comme un igloo. D'écouter comme un igloo, l'artiste, vous l'avez reconnu, c'était Étienne Dao.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle arrive en ligne avec nous, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Bonjour Catherine.
Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de Pauline qui a 48 ans. Elle nous écrit la chose suivante. Je suis mariée depuis 21 ans et j'aime profondément mon mari. Cependant, il a pris 25 kilos. Ces dernières années, je ne ressens plus vraiment d'attirance sexuelle à cause de ça. Je ne sais pas comment lui faire comprendre. Catherine, bon, la prise de poids avec l'âge, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, surtout chez les hommes. Enfin, les femmes aussi, remarquez, mais bon, les hommes, c'est vrai qu'on a tendance à le voir peut-être plus. C'est fréquent cette perte d'attirance qui va parfois avec chez l'autre conjoint ou pas? Vous en entendez parler en consultation de ce type de problème?
Alors oui, mais justement ça pose plein de choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le temps qui passe et qui change nos corps et la difficulté évidemment d'être toujours aussi attirant qu'on a pu l'être dans le passé. Et on pourrait en rester là et simplement du coup stigmatiser des corps qui évoluent, qui se rident, qui grossissent, qui maigrissent, qui deviennent plus flasques, etc. pour justifier de la difficulté du désir. Or c'est bien autre chose qui est à l'œuvre quand un désir est défaillant. C'est aussi pouvoir renouveler la relation dans une relation qui est toujours la même, qui perdure, qui s'est installée, qui a trouvé son confort, etc. Alors, ce qui n'annule pas le fait qu'on peut avoir des critères de beauté qui nous plaisent plus. Il n'empêche que tous les gens sveltes et jeunes ne sont pas source d'attirance. Donc, encore une fois, ne nous laissons pas avoir par les 25 kilos de trop. Ceci étant, je crois que c'est autre chose qui se joue là-dedans. C'est la difficulté de voir quelqu'un que l'on a aimé parce qu'il était porteur d'enthousiasme, de virilité, de désir lui-même, avoir abandonné son propre cas, s'être abandonné lui-même en ne prenant pas soin de lui, parce qu'il y a ce que l'on ne peut pas faire, contre quoi on ne peut pas lutter, les rides, la peau qui devient plus qui perd de sa tonicité.
Flasque, hein. Qui devient, vous l'avez dit plus joliment que moi, j'ai dit flasque et vous dites perte de tonicité, c'est mieux, vous avez raison.
Voilà, non mais je l'ai dit tout à l'heure, flasque, j'essayais de trouver quelque chose d'un peu plus élégant, parce que c'est sûr que c'est douloureux pour soi, tout ça. Simplement, mais c'est douloureux si en plus le regard de l'autre le pointe, le stigmatise. Donc il y a ce à quoi on ne peut pas malheureusement beaucoup toucher et il nous faut l'accepter. Et la beauté d'un couple, c'est pouvoir vieillir ensemble et accepter ce qui petit à petit s'enfuit sans pour autant qu'on ait peur du désir qui fuit avec. Mais par contre, il y a ce que nous avons abandonné. Nous avons abandonné nos muscles, nous avons abandonné du poids que l'on prend, mais qui n'est pas le fait de l'âge, qui est le fait
vous
plus grand
Jimmy,
avec l'âge. Pardon?
Non, Jimmy qui fait aucun sport, tout ça, je voulais qu'il vous écoute. Bien, voilà.
Non, mais Jimmy,
bien.
Il est tout jeune, il est trop fringant, mais s'il ne fait pas attention.
Voilà, on va pas les annoncer, attention.
Oui, moi, après 10 ans de vie commune, je suis à plus 10 kilos, donc peut-être que dans 10 ans, j'arriverai à ces 20 kilos.
Parce que c'est votre femme qui nous écrira, Jimmy, qui sait.
Bien sûr, mais parce que aussi. L'amour est aussi fait des câlins alimentaires que font les femmes à leurs hommes. On ne peut pas aussi leur reprocher systématiquement de prendre un peu de kilos.
C'est entièrement ça. J'ai pris ces 10 kilos, ce n'est pas de ma faute et du fait de mon absence d'activité physique. Elle cuisine trop bien.
Allez, posez votre question là.
25 kilos, malgré tout, si ça avait été une femme, on aurait dit que physiquement elle n'est plus la même. Est-ce qu'on peut en dire autant pour un homme? 25 kilos, elle peut aussi être un peu bouleversée, outre les cheveux blancs et l'âge. On peut aussi se dire que c'est plus celui qu'elle a connu.
Puis c'est dangereux pour sa santé.
Absolument. C'est d'abord, c'est pas bien pour sa santé. De toute façon, vous le direz mieux que moi, mais vous savez aussi qu'il y a du coup potentiellement une part d'œstrogène trop importante qui nuit à la testostérone masculine, qui va pas du tout dans le sens de sa bonne santé par ailleurs, et qui évidemment n'est pas le critère de la virilité qui a été désirée. Mais au-delà de ça, je pense que pour pouvoir l'aborder, puisque là est sa question, pour pouvoir aborder ça avec son mari, il faut qu'elle puisse plutôt s'inquiéter de ce que ça veut dire pour lui, plutôt que de dire « puisque t'es comme ça, je ne te désire plus ». Parce que sinon, lui, il va dire « puisque t'es sympante, je ne te désire plus, puisque tu es ridée, je ne te désire plus, puisque, etc. » Et ça sera la guerre des tranchées, parce que la réalité, c'est qu'il y a le temps qui passe et que c'est difficile. Nous voudrions rester jeunes tout le temps.
Elle fait quoi alors, Pauline? Du coup, elle lui dit quoi? Parce que néanmoins, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Oui, alors il y a peut-être effectivement.
Un régime, non.
Voilà, non, je pense non. On peut se dire qu'on peut faire attention à ça sans être obligé du régime draconien qui fait que la vie n'est pas délicieuse. Mais peut-être aussi veiller à voir quelle est peut-être sa propre ambivalence. Est-ce qu'elle n'a pas nourri son mari en étant rassurée de le nourrir parce que ça prouvait qu'elle était une bonne cuisinière et qu'il fallait qu'il mange. Et puis maintenant, elle lui reproche les kilos. Ou est-ce que elle-même n'a pas quelques kilos qui étaient plutôt rassurants dans la mesure où il en avait
en grève. Non, parce que Jimmy dit régime, moi je dis qu'elle se mette en grève, et puis voilà, c'est chacun son point de vue. Non,
oui, voilà. Ben,
il va manger des pâtes.
Sinon, on vous embête, Catherine, allez-y, terminez. On vous embête aujourd'hui.
Ne laissons pas cette
femme. Non, mais j'adore, on est coquins là. Allez-y.
Non, mais
c'est fini, zut.
Et je pense. C'est fini déjà. Bon, ben, en tout cas, qu'elle puisse justement dire à son mari qu'elle s'inquiète. Est-ce que cette prise de poids, c'est pas qu'il a abandonné tout simplement de se plaire à lui-même et qu'elle a besoin qu'il se plaise pour qu'il lui plaise aussi, même quelques kilos de trop.
Merci beaucoup.
Bon, c'était un peu rapide, hein, mais on le fera
un peu rapide.
Plus en détail.
On y reviendra peut-être, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Catherine. On se retrouve bien sûr demain. Vous aussi, Jimmy, demain à 15h. Vos questions au 3921 sont toujours les bienvenues. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour, Mathieu.